Bonjour, Lord Killer, dit Monsieur André Passé. Maintenant, je donne mon nom assez facile parce que Wikipédia le donne. Donc, il n'y a plus de mystère. Pendant un moment donné, on gardait le nom
Lord
que
Killer,
pour la famille.
C'était ton nom de rappeur ?
C'est ça, c'est le nom de producteur. En fait, j'ai toujours été rappeur. Bon, faut l'avouer parce que les gens ne l'avouent pas, j'étais un rappeur raté. Donc, je ne savais pas très bien rapper. Et comme mon frère était un excellent danseur avec les Actuelles Forces, je me cherchais dans le rap. Et du coup, j'étais tout le temps avec les NTM. Donc là, on parle de 93-94, et quand on parle de 93-94, c'est la plus grande tournée qu'ils ont fait, parce que c'est quand même, ils ont fait le Zénith, et d'ailleurs, je crois que c'est le premier groupe rap à avoir fait un Zénith, un NTM. Donc du coup, donc on est avec le NTM. Ensuite, ma carrière commence réellement en allant aux États-Unis, suite à un voyage en regardant une émission de Puff Daddy.
En quelle année ?
En 95, j'ai vu cette émission, ma première compile est sortie en 96. Donc du coup, je suis devenu le plus jeune producteur du rap français.
C'est comment s'appelait ta compil ?
Hip Hop Vibes, tout le monde connaît. Tous ceux du rap, ils connaissent. Ensuite, après, avec Secteur A, on a fait 24 heures de nos vies. Mmh. Et j'ai fait avec Menelik et le collectif d'MC Solar, on a fait Feat, Lord Killer Feat.
Ah, super.
Donc
super.
Que des albums à concept. 24 heures de nos vies, c'était le rappeur qui devait se concentrer sur une journée de leur vie. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes avec la police. Mais moi, j'en avais marre de dire oui, nique la police. Donc, en fait, on a mis les rappeurs à deux rôles. Donc, il y avait un rappeur avocat, un rappeur flic, un rappeur témoin, et ils racontaient leur journée et leur vision. Donc, on a fait 24 heures de nos vies. Feat, c'était quoi ? C'était comme j'avais fait Hip Hop Vibes qui avait marché. J'ai repris Vengeance sur la vie, comme j'étais compositeur. J'ai fait un album où j'ai invité tous les rappeurs et ils ont fait avec sur mes sons. Il y avait KDD qui chantait Une princesse est morte. Il y avait les groupes de Cicade qui n'étaient pas connus, donc Soprano. Mmh. Donc on a travaillé avec Soprano. Il y avait Menelik, l'introduction de Bye Bye. C'est une production à moi. C'est une production à moi. Et donc voilà. Et puis on a après, de NTM, on a fait MC Solar. Je suis quand même le premier petit à quand même été proche des NTM. Et ensuite, on s'est rapproché de Solar. Parce que je me suis plus retrouvé chez Solar par rapport à sa vision. Parce que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. C'est-à-dire avoir, en fait, laisser au rap un héritage. Pas simplement être un rappeur. Quand je dis un héritage, ce n'est pas par prétention. Ce n'est pas se dire, oui, on a fait des choses. Tu as vu, tu me connais, tu as vu, limite, je ne parle jamais de ma carrière. C'est la première fois que je t'en parle. Parce que j'ai fait un trait sur tout ça. Mais c'est quand même de dire, ah ouais, lui, il vient de là, il a fait des choses. Tu vois, aujourd'hui, je fais une télé qui est diffusée sur Freed et puis Vibes TV. Donc, on a fait... D'ailleurs, je vais écrire un bouquin, Vibes TV. D'ailleurs, je vais faire un bouquin qui va s'appeler « Hip Hop Vibes de la cassette à la télé ». Tu vois, parce que je trouve que si on peut influencer un jeune ou deux jeunes, c'est énorme. Parce que nous, on n'avait pas de modèle qui était comme nous et à qui on pouvait s'identifier. Donc, on allait chercher aux États-Unis. Et je pense que de nos jours, on a ces modèles.
D'accord. Alors la production, c'est devenu naturel pour toi. Est-ce que c'était parce que de prendre le business
en... Oui, il y avait besoin. On va pas dire que c'était naturel parce que entre naturel, c'est que moi j'ai voulu. En fait, j'ai appris à aimer la production dans le temps, qui est un vrai kiff parce que je peux pas.
C'était une nécessité par rapport aux maisons de disques.
Non, c'était même pire encore. C'est parce que les gens. Les maisons de disques signaient les artistes à l'époque, mais ne les travaillaient pas. Parce qu'à l'époque, je te tutoie, que je te parle, il n'y avait que NTM, IAM, Solar. Il y avait déjà des albums qui ont été faits auparavant, dont les Little MC, qui ont été un excellent album, qui n'ont pas été travaillés, parce qu'ils n'avaient pas cette visibilité par rapport à leurs maisons de disques, comment ils les voyaient. Et moi, je trouvais qu'à l'époque, le bon rap n'était pas forcément le rap signé. Je ne dis pas les trois étaient mauvais, parce que pour moi, c'était des excellents groupes, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de contrats. Il y avait Johnny Go qui a signé, qui n'est jamais sorti, et Johnny Go, c'est le papa du rap français. C'est lui qui a fait pour moi les premiers avec Destroman, le premier single. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est passé inaperçu, parce qu'ils n'ont pas été signés et avoir une grosse couverture par rapport aux médias. Et moi, ce que je voulais faire, c'était tout simplement un bad boy en France. Mm-hmm. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était bad boy, je voulais faire un bad boy en France. Quand je regardais Noto SB, comment il travaillait avec Puff Daddy, je dis, c'est ça qu'il faut en France. Le rappeur et le producteur, ils étaient amis, ça se réunissait, tu vois, et dans les réunions, il y avait des juifs, des blancs chez Puff Daddy, et ça parlait business. J'ai dit, si on ramène ça en France, on est fort. Donc, j'étais pas dans l'état d'esprit. je fais un album, je prends de l'argent, je refais un album. Non, il faut qu'on installe quelque chose et il faut qu'on marque. Et puis, en fond d'NTM, il fallait que j'arrive avec un projet lourd derrière. Parce que je ne pouvais pas être rappeur. Pour que le NTM te valide derrière ou Sola te valide quand tu les as fréquentés, il faut que tes projets soient solides.
Alors, comment, quand tu t'es lancé dans la production, comment tu as ressenti ça au départ? Comment t'as... C'était un nouveau métier, c'était une nouvelle façon de voir la musique, c'était une façon de voir le milieu?
Oui, parce que quand tu es producteur, on me l'a souvent reproché, mes amis, oh, tu n'aimes plus le rap, t'es plus... Quand tu écoutes le rap, on dirait que tu vois une vision, même quand tu ne veux pas vendre des disques, parce que tu sais qu'un producteur, il doit s'adresser à son public. Même quand tu veux t'adresser à un public, ils n'étaient pas prêts parce qu'ils ne connaissaient pas leur public. Ils avaient cette crainte, mais c'est plus mon pote qui parle là. C'est un mec, qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est, tu vois, oh, c'était marrant. Donc, il fallait installer en fait le côté affectif, business et patrimoine.
Oui, parce que ce que tu disais sur Pump Daddy et tout ça, donc il fallait refaire le lien quand même affectif.
C'est ça, je le reconnais. Ça c'est venu, et je vais te choquer, hein. Ça a été venu après. Au début, je pense, de 96 à 2001, tout le monde nous faisait confiance et ne nous demandait pas d'argent. Parce qu'on faisait des choses. Et ils savaient qu'en mettant un titre sur une de mes compiles, c'est une certitude pour réussir. Donc pour eux, ils disaient qu'on arrange le petit, mais le petit va nous positionner. Parce qu'on faisait des tournées, tout ça. Et je trouvais qu'en 2001 jusqu'à 2004, 2005, l'arrivée de Skyrock, je ne dis pas Skyrock est mauvais, parce que ce n'est pas ça le but. On n'est pas là pour faire comme j'aime bien dire, des procès. Oui, oui. Aux choses, on est là pour essayer de changer. Et je pense que l'arrivée de Skyrock a donné une visibilité à des artistes, et les artistes ont vu qu'ils pouvaient réussir peut-être plus facile, mais ensuite ils ont moins réussi que cette génération, parce qu'ils ont eu beaucoup de contrats où les droits ils ne géraient pas.
Oui, oui, oui.
Tu vois, parce que tu as des groupes, je ne veux pas les citer, parce que tu as des groupes qui ne peuvent jamais être reformés parce qu'ils doivent un album à une maison de disques. Et la maison de disques n'enlèvera pas l'option.
Alors, qu'est-ce que tu as eu envie de changer, toi, en tant que producteur?
Changer, je pense que même à la petite échelle qu'on pouvait avoir, on a changé beaucoup. Donc, un groupe, ça ne sert à rien de les garder. Donc, c'était ça ma vision. C'est pour ça que beaucoup de personnes me faisaient confiance. On part sur un projet, parce que je pense qu'un album, c'est comme un bébé. Tu vois, toi, tu es une femme, je considère ça. Mm-hmm. On aime tous ses enfants, on les aime pareil, mais il n'y a jamais le même première approche. T'es d'accord avec moi en tant que femme?
Complètement.
Voilà. Tu vois, parce que moi, je n'ai pas porté, donc je ne peux pas le dire, même si j'en ai, tu vois. Donc,
feeling différent selon la personnalité de chacun.
Voilà. Donc, un bébé est unique, même si c'est tes enfants.
Oui.
Donc, je trouvais qu'un album de rap était unique et marquait un temps de la période. Donc, un album avant, à notre époque, tu sais, ça se faisait sur 2 ans. Donc, pendant 2 ans, c'est des choses qu'il a vécues, qu'il a vues, qu'il a appris.
En tant que producteur, ça se faisait, ce développement?
De ma part, pour ma part, ce qu'on faisait, déjà, on signait pas les artistes sur des longs projets. Donc, je pense, on signait un album, et si ça marchait, on avait un deuxième album. On faisait pas comme les maisons de 10, parce qu'à l'époque, les maisons de 10, c'était des contrats entre 9 et 12 ans. Ils vous donnaient, nous, on faisait un album, parce qu'on trouvait 2 ans, et puis même, l'album qu'on allait faire apporter de l'argent à l'artiste, mais je ne pouvais pas justement l'emmener plus haut. Donc, et puis, ce qui était différent, donc, c'était ça. Et puis, ce qu'on faisait aussi, c'est que j'essayais de rendre producteurs les artistes. Par exemple, après, tous les artistes que j'ai produits après mes compiles, c'était des coproducteurs. Chose que les gens ne savent pas, mais maintenant, ils savent. Ils disent, ah, c'est pour ça que tu nous mettais comme ça. Par exemple, j'ai fait HSI, que chez Sony en édition. Les gars, ils étaient coproduction. Ensuite, j'ai fait Vendetta. Vendetta, aujourd'hui, de 96 en 2023, on est toujours des vrais amis et des amis comme jamais. Et à l'époque, même, souvent Charlie me dit, un rappeur de Vendetta, si c'était avant Killa, on serait riche. Parce que malgré qu'on était unis, le système a fait en sorte qu'on soit désunis. Pour pas qu'on ait confiance en l'un vers les autres. Donc, de ma part, c'était par rapport au temps.
Comment t'as eu l'idée de faire ça, de faire justement de proposer des coproductions aux artistes? C'était sur un modèle américain?
Oui, c'était... Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais Puff Daddy, il est pas bien. Moi, c'était vraiment Puff Daddy. Oui. Je vais pas te mentir, parce que Death Row, j'aimais pas. Parce que j'étais pas dans le voyou, j'étais pas dans les bandits. Donc, c'était vraiment... Et en plus, les gens, ils le voyaient pas, parce que comme j'ai quand même une authenticité en moi-même, donc le modèle, j'ai su l'adapter. Parce que comme j'aime bien dire, dans la musique, on n'innove pas, on crée pas, on innove. Parce que les anciens ont été tellement forts qu'on ne peut pas créer, on ne peut que innover. Donc si on innove bien, quand ils vont nous écouter, ils vont dire « Ah, ce petit-là, il s'est inspiré, mais il a bien fait ». Et c'est pour ça que je te disais auparavant...
Alors, comment vous avez été perçu par les maisons de disques en France, justement, quand vous avez commencé à mettre un modèle différent en place? Ça s'est fait comment? Est-ce que ça a été une déclaration de guerre?
Non,
ou est-ce que...
mais je vais t'étonner, non. Parce que, pourquoi? Et c'est fort ce que je veux te dire, mais c'est super marrant. On a signé chez Night and Day, donc qui signait tout le monde à l'époque.
Oui, Night and Day.
Merci. Ouais. Bah, on a signé chez Night and Day en 96. Donc, pour te dire, ouais, ma première compile, qui était la référence, Patrick Colleoni, il nous a signé. Et il m'a donné 50 000 francs à l'époque, si tu connais.
Ouais.
Qui est devenu aussi, c'était en euros, c'était 15 000. Mais si on fait, c'est 100 000 à peu près. Aujourd'hui, c'est comme si, à l'époque, en 1986, quelqu'un m'a donné 100 000 euros pour faire un travail. À l'époque, j'ai acheté direct, j'ai investi dans la pierre. Tu vois, parce que j'étais chez ma maman, j'étais mineur. Donc non, on a malgré cette vision-là...
T'étais
comme
mineur?
Oui, j'ai commencé, j'avais 17 ans, oui. Ma première société, c'était ma maman, la gérante. Parce que pour pouvoir récupérer l'argent. Et jusqu'à maintenant, ma mère est associée avec moi. Donc dans ma chaîne de télé, c'est ma mère et moi.
Ça, c'est drôle, ça.
Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Donc, on n'invente pas des liens. Mm-hmm. Tu vois, pour moi, c'est normal. C'est l'héritage. Moi, je considère, on sort de la musique. Toussaint Louverture, il est parti du Bénin en Haïti. Mm-hmm. Il pensait qu'il allait revenir, il n'est pas revenu. Il s'est battu contre Napoléon, plus grand empereur. Il a gagné. Donc, premier héros, c'est Toussaint Louverture pour moi. Ouais. Même si le gars, il est fort en face de toi, si tu es structuré, vous arriverez à vous comprendre. Deuxième héros, c'est Puff Daddy. Troisième héros, c'est Michael Jackson. Après, j'ai aucun héros. Mm-hmm. Tu vois?
D'accord. Alors, tu me disais, les maisons de disques, comment elles ont perçu ça?
Non, ils nous ont bien perçu parce que j'étais structuré dans ma tête. Et en off, c'est ce que tu dis souvent et c'est vrai. Mm-hmm. Parce que nous... Donc, quand je fais 96 Hip Hop Vibe chez Night and Day, donc on va pas dire qu'il était un sous-label, qui était label du moment.
Oui, absolument.
Donc, Hip Hop Vibe, c'était chez eux. Et c'est pour ça qu'on était connus. Tout le monde nous disait, vous allez être célèbre. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient signé Mr. Gang, qui est les grandes chez moi. Ils disaient, ah, vous allez être célèbre, c'est obligé. Donc, Mr. Gang devenait fan de nous. Donc, il était nos grands. Et là, on a sorti un truc. Et quand j'ai sorti la première compi, je me rappelle un truc que j'oublierai jamais. Stomy, Ministère Amer, que j'ai saigné dans le Rockman, il m'a dit, « Hey, petit, t'es fort. » Parce qu'il m'a dit, « On t'a pas vu arriver. » Et je lui ai dit, « Mais c'est normal, j'ai que 18 ans. » Il m'a dit, « Hey, t'es bon. » Et du coup, je lui ai dit, « Comment on fait? Prochain album, je t'invite. » Il me dit, « Chiche. » Et il est venu sur Hip Hop Vibes 3. Tu vois, parce qu'en plus, les compiles, on faisait pas dans l'ordre. On donnait des sous-titres. Ouais. Donc, c'est Hip Hop Vibes, la scène rap, qui était le numéro 1. Le Hip Hop Vibes 2, comme tout le monde appelait le 2, on a fait Hip Hop Vibes 3, nouveau chapitre. Où est passé le 2? Et ensuite, le 3, on a fait dernier chapitre. Donc, tu vois, j'ai pensé vraiment à l'américaine.
Tu avais une stratégie comme ça, un peu de, justement, comme un feuilleton, comme une histoire qu'on raconte.
Oui, c'est ça.
Tu inscrivais déjà le rap dans l'histoire, en fait.
Oui, parce que je pensais que c'est... Tu sais, l'histoire, pour moi, est importante. Tu vois, mais très importante. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Mm-hmm. De ma part, pour ma part, ce qu'on faisait, déjà, on ne signait pas. On ne signait pas les artistes sur des longs projets. Mm-hmm. Donc, je pense... On signait un album et si ça marchait, on avait un deuxième album. On ne faisait pas comme les maisons de 10 parce qu'à l'époque, les maisons de 10, c'était des contrats entre 9 et 12 ans. Ils vous donnaient. Nous, on faisait un album parce qu'on trouvait 2 ans. Et puis même, l'album qu'on allait faire m'apportait de l'argent, apportait de l'argent à l'artiste, mais je ne pouvais pas justement l'emmener plus haut. Donc, et puis, ce qui était différent, donc, c'était ça. Et puis, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on j'essayais de rendre producteurs les artistes. par exemple, après, quand j'ai tous les artistes que j'ai produits après mes compiles, c'était des coproducteurs. Chose que les gens ne savent pas, mais maintenant ils savent, ils disent « Ah, c'est pour ça que tu nous mettais comme ça ». Par exemple, j'ai fait HSI, que chez Sony en édition. Les gars, ils étaient coproduction. Ensuite, j'ai fait Vendetta. Vendetta, aujourd'hui, de 96 en 2023, on est toujours des vrais amis et des amis comme jamais. Et à l'époque, même, souvent Charlie me dit, Arnaud, un rappeur de Vendetta, si c'était avant qu'il en, on serait riche. Parce que malgré qu'on était unis, le système a fait en sorte qu'on soit désunis. Pour pas qu'on ait confiance en l'un vers les autres. Donc, de ma part, c'était par rapport au temps.
Comment tu as eu l'idée de faire ça, de faire justement de proposer des coproductions aux artistes? C'était sur un modèle américain
que tu as vu? Oui, c'était... Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais Puff Daddy, il est pas bien. Moi, c'était vraiment Puff Daddy. Oui. Je vais pas te mentir, parce que Def Row, j'aimais pas. Parce que j'étais pas dans le voyou, j'étais pas dans les bandits. Donc, c'était vraiment... Et en plus, les gens, ils le voyaient pas. Parce que, comme j'ai quand même une authenticité en moi-même, donc le modèle, j'ai su l'adapter. Parce que, comme j'aime bien dire, dans la musique... On n'innove pas, on crée pas, on innove. Parce que les anciens ont été tellement forts qu'on ne peut pas créer, on ne peut que innover. Donc si on innove bien, quand ils vont nous écouter, ils vont dire « Ah, ce petit-là, il s'est inspiré, mais il a bien fait. » Et c'est pour ça que je te disais auparavant...
Alors comment vous avez été perçu par les maisons de disques en France, justement, quand vous avez commencé à mettre un modèle différent en place? Ça s'est fait comment? Est-ce que ça a été une déclaration de guerre?
Non,
ou est-ce que...
mais je vais t'étonner, non. Parce que pourquoi? Et c'est fort ce que je veux te dire, mais c'est super marrant. On a signé chez Night and Day, donc qui signait tout le monde à l'époque.
Oui, Night and Day.
Merci. Merci. Ouais. Bah, on a signé chez Night and Day en 96. Donc pour te dire, ma première compile, qui était la référence, Patrick Colleoni, il nous a signé. Et il m'a donné 50 000 francs à l'époque, si tu connais.
Ouais.
Qui, tu vois, qui est devenu, si c'était en euros, c'était 15 000. Mais si on fait, c'est 100 000 à peu près. Aujourd'hui, c'est comme si, à l'époque, en 1986, quelqu'un m'a donné 100 000 euros pour faire un travail. Tu vois, à l'époque, j'ai acheté direct, j'ai investi dans la pierre. Tu vois, parce que j'étais chez ma maman, j'étais mineur. Donc non, on a malgré cette vision-là...
T'étais
mais
mineur?
Oui, j'ai commencé, j'avais 17 ans, oui. Ah, la première société, ma première société, c'était ma maman, la gérante, parce que pour pouvoir récupérer l'argent. Et jusqu'à maintenant, ma mère est associée avec moi. Donc dans ma chaîne de télé, c'est ma mère et moi.
Ça, c'est drôle, ça.
Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Donc, on n'invente pas des liens. Mm-hmm. Tu vois, c'est, pour moi, c'est normal. C'est l'héritage. Moi, je considère, on sort de la musique. Toussaint Louverture, il est parti du Bénin en Haïti. Mm-hmm. Il pensait qu'il allait revenir, il n'est pas revenu. Il s'est battu contre Napoléon, plus grand empereur, il a gagné. Mm-hmm. Donc, premier héros, c'est Toussaint Louverture pour moi. Ouais. Même si le gars, il est fort en face de toi, si tu es structuré, vous arriverez à vous comprendre. Deuxième héros, c'est Puff Daddy. Troisième héros, c'est Michael Jackson. Après, j'ai aucun héros. Mm-hmm. Tu vois?
D'accord. Alors, tu me disais, les maisons de disques, comment elles ont perçu ça?
Non, ils nous ont bien perçu parce que j'étais structuré dans ma tête. Et en off, c'est ce que tu dis souvent et c'est vrai. Mm-hmm. Parce que nous, donc quand je fais 96 Hip Hop Vibe chez Night and Day, donc on ne va pas dire qu'il était un sous-label, qui était label du moment.
Oui, absolument.
Donc Hip Hop Vibe, c'était chez eux. Et c'est pour ça qu'on était connus. Tout le monde nous disait, vous allez être célèbre. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient signé Mr. Gang, qui est les grandes chez moi. Ils disaient, vous allez être célèbre, c'est obligé. Donc Mr. Gang devenait fan de nous. Ah. Donc il était nos grands. Et là, on a sorti un truc. Et quand j'ai sorti la première compil, je me rappelle un truc que j'oublierai jamais. Stomy, Ministère Amer, que j'ai saigné dans le Rockman. Il m'a dit, hé, petit, t'es fort. Parce qu'il m'a dit, on t'a pas vu arriver. Et je lui ai dit, mais c'est normal, j'ai que 18 ans. Il m'a dit, hé, t'es bon. Et du coup, je lui ai dit, comment on fait? Prochain album, je t'invite. Il me dit, chiche. Et il est venu sur Hip Hop Vibes 3. Tu vois, parce qu'en plus, les compiles, on faisait pas dans l'ordre. On donnait des sous-titres. Ouais. Donc, c'est Hip Hop Vibes, la scène rap, qui était le numéro 1. Le Hip Hop Vibes 2, comme tout le monde appelait le 2, on a fait Hip Hop Vibes 3, nouveau chapitre. Où est passé le 2? Et ensuite, le 3, on a fait dernier chapitre. Donc tu vois, j'ai pensé vraiment à l'américaine.
T'avais une stratégie comme ça, un peu de justement, comme un feuilleton, comme une
histoire
c'est ça. Qu'on raconte.
En c'est fait. Ça, c'est ça.
Tu inscrivais déjà le rap dans l'histoire. En
fait. Oui, parce que je pensais que c'est, tu sais, l'histoire pour moi est important. Tu vois, mais très important, parce que si tu sais pas d'où tu viens, tu sauras pas où tu vas.